Alors, on travaille pour l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, qui est un institut du ministère de la jeunesse et donc de l'éducation nationale en ce moment. Et c'est une recherche qui est menée aussi conjointement avec l'École des hautes études en santé publique de Rennes.
Alors, les constats qui ont mené à cette enquête, les filles du coin, c'était tout simplement une sous-représentation de la question dans la littérature scientifique ? Ou ça allait un petit peu plus loin ?
Alors, ça partait d'une sous-représentation dans la littérature scientifique de connaissances sur les conditions de vie et sur les sociabilités des jeunes femmes vivant en milieu rural. Aujourd'hui, il y a près d'un jeune sur cinq qui vit en milieu rural, ce qui représente à peu près 4,5 millions de personnes. Et on ne peut pas s'arrêter à la connaissance uniquement des jeunes hommes ou des femmes qu'on rencontrerait par des jeunes hommes. Et donc, c'est bien ça, l'enquête qu'on a fait, c'était d'aller voir ces jeunes femmes qui représentent finalement une fraction peu visible de la jeunesse, qui se distingue ni parce qu'elle a des parcours excellents, ni parce qu'elle crée des troubles dans la société, comme peuvent l'être les jeunes issus des quartiers d'habitat social, par exemple.
Alors, le nom de l'étude aussi révèle plein de choses. Les filles du coin, ça, tout est dit là, en fait, hein, dans le titre.
Les filles du coin, en fait, nous, on ne l'a pas vraiment trouvé. C'est Nicolas Renaï qui a fait sa thèse, qui l'a appelée « Les gars du coin ». Et l'idée, c'était de faire un peu le pendant de la thèse de Nicolas Renaï, tout en travaillant sur des jeunes femmes plus jeunes que celles, enfin que les personnes rencontrées par Nicolas à cette époque-là.
Alors, c'est une étude qui porte sur plusieurs territoires ruraux. Donc, on a la vallée de la Meuse, les Deux-Sèvres. On a aussi du côté de la Chartreuse, entre l'Isère et la Savoie. L'idée, ce n'est pas non plus de faire un inventaire des spécificités de tel ou tel territoire, c'est d'avoir une vue d'ensemble sur tous les territoires ruraux, si je ne me trompe pas.
Bah, c'était d'avoir une diversité de territoires, en fait, pour montrer que, de toute façon, grandir comme jeune femme en milieu rural, bah, c'est grandir dans des environnements assez différents. Et donc, on a à la fois des territoires touristiques, à la mer, à la montagne, on a des territoires qui n'ont pas cette activité touristique, on a des territoires plutôt industriels, enfin qui sont d'anciens territoires industriels, comme les Ardennes, on a d'autres territoires presque intéressants, c'est que malgré ces différences de territoires, bon, on retrouve aussi des choses qui sont propres à la ruralité, à la question des transports, de la mobilité, et qui permettent de dire des choses
communes à tous ces territoires, quoi.
L'idée, c'était aussi de pouvoir voir justement quelle est l'image du territoire à l'extérieur, et puis quelle image du territoire ça peut avoir sur la construction de soi quand on est une jeune femme.
Alors, les premiers résultats de cette enquête sont parus en janvier. Il y a un premier axe, notamment sur la notion d'appartenance à un territoire. C'est tout simplement la question si on est du coin ou pas. Alors, qu'est-ce qui crée ce sentiment d'appartenance des jeunes femmes à un territoire ? Est-ce que ça commence par la famille d'abord ?
Alors, plus que le sentiment d'appartenance, c'est aussi le fait d'être... de pouvoir avoir des ressources sur le territoire et le fait d'être reconnu comme d'être ou ne pas d'être d'ici. Parce que si on s'intéresse aux filles du coin, c'est aussi que les jeunes femmes elles-mêmes, quand elles parlent des jeunes du coin, elles ont tendance à parler des garçons, en fait. Qu'est-ce qu'être d'ici ? C'est comme les garçons d'ici. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'être une fille du coin ? Et on s'est aperçu que ce qui est important, c'est pas tant finalement d'être né ici ou pas né là, pour être reconnu comme d'ici, mais ça va être notamment l'inscription de sa famille dans l'interconnaissance, dans la locale, dans les réseaux de sociabilité locale, et du coup la popularité en fait des familles, qui va permettre d'être reconnue comme la fille d'une telle, d'un tel, la nièce d'une telle, d'un tel. Et du coup, on voit un peu une opposition entre celles qui ont notamment des parents insérés dans des réseaux de sociabilité locaux. Alors, ça va être par exemple les clubs de sport, les pères au club de foot, les mères au foyer de jeunes ou qui tiennent des associations culturelles dans la ville. Et donc, ces jeunes femmes vont être reconnues et puis vont pouvoir participer en fait à diverses activités locales. Et d'autres qui ont toujours été ici, mais qui n'ont pas ces ressources familiales, qui vivent avec une mère seule, par exemple handicapée, qui ont été mis... à l'écart des groupes d'amis petits, parce qu'elles ont été stigmatisées, étant plus précaires. Et elles ont beau être d'ici, elles ne sont pas reconnues, elles ne sont pas visibles dans l'espace local. Du coup, ça crée des expériences très différentes.
Alors, ce n'est pas qu'un sentiment, c'est aussi c'est une construction très concrète, quoi. Et puis, qui a un rôle super important pour la suite aussi, le développement de ces jeunes filles.
Ben, c'est un rôle, effectivement, parce que c'est un rôle, déjà, dans la manière dont elles vont... Les groupes d'amis qu'elles vont avoir, elles vont pouvoir avoir des groupes d'amis larges, ou au contraire, elles vont se retrouver isolées et être seules. Mais ça va avoir un accès à toutes les activités culturelles, en fait, aux activités de loisirs, être tenue dans l'équipe de compétition du ski club, par exemple, à la montagne, pour faire les sorties du foyer de jeunes. Ça va être aussi avoir accès aux emplois locaux. Ouais. On va penser à vous pour les petits jobs, pour les petits pour les postes, pour les...
Alors, vous avez aussi étudié la constitution des groupes d'amis aussi. Qu'est-ce que ça révélait, ça ?
Alors, tout d'abord, sur les groupes d'amis, ce qu'on voit, c'est quand on interroge les garçons, quand dans leur groupe de copains, il y a quelques filles, ils appellent ça un groupe de copains. Quand les filles, elles ont quelques garçons dans leur groupe de potes, elles vont dire qu'elles sont dans un groupe mixte, ce qui est assez rigolo de toute façon, enfin assez intéressant à voir sur la place du sexe et la construction du genre et la nécessité pour les filles de pouvoir dire qu'elles font ou pas, elles ont un groupe mixte ou pas. Ensuite, ce qu'on voit chez toutes les filles qu'on a pu rencontrer, c'est l'évolution progressive des groupes d'amis qui sont marqués avant tout par les lieux de scolarisation, c'est-à-dire que ce qui est spécifique aux filles de milieu rural, c'est qu'au fur et à mesure de leur scolarisation, entre la primaire et le collège, il va falloir qu'elles fassent pour beaucoup d'entre elles un certain nombre de kilomètres et le collège va mélanger tout un tas de jeunes qui ne se connaissaient pas et qui viennent de territoires différents. Et au lycée, c'est encore plus fortement mixé tous ces jeunes-là, avec les effets aussi d'orientation scolaire et tout ça. Et donc ce qu'on va voir, c'est qu'il va y avoir plusieurs groupes d'amis successifs qui vont cohabiter dans la vie de chaque jeune femme et qui vont pas forcément se rencontrer, et c'est ce qu'on va voir pour celles les plus âgées qu'on a rencontrées qui travaillent, qui vont pas faire rencontrer forcément leurs copines ou leurs copains du travail avec leurs copains d'enfance, par exemple. Les copains d'enfance, au fur et à mesure, les liens vont être maintenus sur les réseaux sociaux, mais c'est pas forcément des gens qu'on va fréquenter en permanence. Et ce qu'on va voir aussi de spécifique et de peut-être plus, en tout cas, en milieu rural que ce qu'on voit dans les enquêtes en milieu plus urbain, c'est également la place des parents et surtout des mères dans les relations amicales. Les mères, elles donnent leur avis. Les parents donnent leur avis sur les fréquentations de leurs enfants, qui sont liées notamment aux héritages familiaux et aux héritages des relations familiales. Les parents étaient copains, donc on devient copain quand on est tout petit, et donc c'est normal qu'on soit copine. Et puis en fait, ce qu'on voit, c'est que l'arrivée du lycée permet d'avoir des affinités plus électives. On choisit ses copines ou ses copains au lycée, tandis que pendant l'enfance, ben, on fait avec qui sont les copains de nos parents, et donc à l'inverse, on ne fréquente pas ceux qui ne sont pas les copains de nos parents. Et ça, on voit que c'est vraiment encore très fortement marqué la place des parents, la place des mères dans les stratégies et dans les compositions des groupes de copines.
On évoque les filles du coin, cette étude sociologique sur le rapport des jeunes femmes avec leur milieu. Alors, on est sur des territoires ruraux avec une certaine diversité. Donc, la presqu'île de Crozon avec son littoral et puis Montagnard avec la Chartreuse. On se dit qu'en termes de loisirs, ce type d'espace offre ce qu'il faudrait, en fait. Hein. Pourquoi et pourtant, là, c'est pas aussi simple que ça, la question des loisirs.
Juste, je reviens, on n'a pas vu que les filles de la presqu'île de Crozon, on a été jusque dans l'Aulne-Maritime. Donc il y a des filles aussi qui habitent autour de Pont-de-Buis, autour de Châteaulin, tout ça.
Pont-de-Buis-Camaret, c'est pas tout à fait pareil.
Voilà, donc on n'est pas... Enfin non, mais c'est important parce que c'est aussi la parole de ces filles-là qui sont peut-être moins identifiées parce qu'on pense souvent Crozon. Et ouais. Crozon, aujourd'hui, c'est l'ensemble de la communauté de communes et c'est toutes ces jeunes femmes-là qu'on a rencontrées.
Ouais, c'est parce que c'est long à dire communauté de communes de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne-Maritime.
Alors certes, bah, quand on habite à côté de la mer ou à la montagne, il y a des loisirs particuliers comme tout ce qui est voile, surf à la mer et ski, randonnée à la montagne. Mais en fait, ce type d'activité, on voit qu'elles peuvent être pratiquées à l'école. Mais ensuite, quand on quitte le cadre scolaire, ben, ça reste très marqué socialement. En fait. Donc c'est plutôt les filles des petites classes moyennes qui vont continuer cette activité, qui demandent des ressources, qui demandent de l'argent, qui demandent du temps. Alors que les autres ne vont pas pratiquer ces activités particulières sur ce territoire.
Donc c'est des activités qui ne s'offrent pas au reste de la population. C'est un constat intéressant quand même.
Ben, oui, mais en plus, il y a aussi une plus généralement, en fait, les activités de loisirs encadrées, elles sont plus investies par les jeunes femmes de classe moyenne et qui ont des ressources, en fait.
Donc par conséquent, on a beau avoir un beau milieu, mais il n'y a pas de lieu d'échange pour se rencontrer, en fait.
Si, il y a beaucoup de lieux d'échange pour se rencontrer, mais il y a un effet de la variable sociale, c'est-à-dire que nous, on a enquêté auprès des jeunes femmes qui habitent et qui sont restées sur le territoire rural. On n'a pas enquêté auprès de celles qui ont le plus de ressources et de dispositions familiales pour pouvoir quitter le territoire. Et donc, parmi les filles et les jeunes femmes qu'on a pu rencontrer qui sont de classe populaire ou de la petite classe moyenne, c'est celles qui vont aussi avoir le moins de ressources pour bénéficier, par exemple pour la Chartreuse ou pour la Pointe du Finistère, des avantages finalement locaux en termes de loisirs. Enfin, dans ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire le ski, le surf, quoi. Et donc, c'est ce qu'on montre bien dans l'enquête, c'est elles ont toutes, grâce à l'école, bénéficié d'une initiation au ski, au surf. Elles se font un avis et quand on leur demande si elles en font actuellement, elles répondent qu'elles n'aiment pas ça. Et en fait, quand on creuse le « j'aime pas ça », c'est qu'en fait, elles n'ont pas les moyens d'accéder au surf ou au ski. C'est pas qu'en fait, elles n'aiment pas ça, c'est surtout qu'elles ne peuvent pas y aller.
Vous avez présenté un petit peu cette étude, c'est quoi les réactions par rapport à ce type de constat ? Les gens sont surpris en local ?
Pas forcément.
Ouais, pas forcément. C'est pas forcément des surprises. On a présenté le travail à des jeunes femmes qui ont participé à l'enquête en Deux-Sèvres. On a présenté ce travail-là aussi à des professionnels ici et en Deux-Sèvres pour l'instant. On continue la semaine prochaine en Chartreuse et dans les Ardennes. Et ce qui ressort beaucoup, c'est la somme d'informations que permettra cette enquête pour faire bouger aussi chacun, chaque professionnel, et ou chaque famille, et ou chaque jeune, dans ce qu'il peut faire à son échelle, à son niveau. Donc après, en fonction des gens qui sont là, ils se sentent ou pas concernés par ce type ou ce type de résultat.
Alors, il y a un manque qui est pointé sur à peu près, vous allez nous le dire, sur tous les territoires. C'est le manque de structures d'accueil jeunesse qui a l'air d'être commun à peu près à tous les territoires que vous avez étudiés.
C'est plus largement en fait la difficulté pour les jeunes femmes, plus que pour les garçons, de trouver des lieux où elles peuvent légitimement se rassembler en fait et passer du temps. Parce que finalement, pour les garçons, il y a aussi des fois des espaces comme des cafés ou des bars qui peuvent être plus facilement investis. Et les jeunes femmes se posent la question pour elles de où se retrouver. Et donc, les adolescentes vont, certaines d'entre elles vont rejoindre dans l'espace public. En fait, les jeunes vont trouver dans l'espace public des endroits pour se retrouver. Alors, on va retrouver un peu les mêmes dans les différents territoires. Le skatepark, le city stade, le stade, devant la gare, autour des abris bus, à côté des supermarchés ou près des établissements scolaires. Mais c'est des espaces où se retrouvent des groupes mixtes, mais majoritairement des garçons, autour d'activités où ça va être plutôt les garçons qui vont faire les activités. Donc quand on va au skatepark, on demande aux filles si elles font du skate, mais non. Il y aura peut-être une exceptionnelle qui va en faire, mais la plupart non. C'est les garçons qui font du skate et elles sont autour à discuter. Si elles ont la chance, il y a des bancs, elles vont pouvoir s'asseoir, mais sinon, elles vont être par terre ou debout. Donc, se pose en fait la question de où elles vont pouvoir se retrouver.
Alors, l'étude enchaîne ensuite avec un autre point fondamental qui est mis en lumière. Alors, c'est la question de la formation et de l'insertion socio-professionnelle qui est sous tension, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Sur les territoires ruraux, ça fait déjà plusieurs décennies de recherche, qu'on voit bien que les jeunes ruraux doivent s'adapter. Et ça concerne encore plus les filles que les garçons qui font tout un travail d'adaptation à l'offre d'orientation, à l'offre locale d'orientation, et puis à l'offre qui est reliée aussi à l'offre d'emplois locaux. Et donc, il va y avoir tout un travail qui n'est pas considéré comme un travail, mais malgré tout, de calcul et qui va permettre de comprendre aussi quelles sont les trajectoires des filles qui ne sont pas parties du territoire et qui sont là quand nous, on les enquête. L'objectif, en fait, c'est de faire avec. Elles font avec ce qui est proche, faire avec ce qu'on leur propose. Avec tout l'exercice, en fait, de comprendre également l'ensemble des freins à la mobilité pour la formation qui s'impose aux filles en particulier. Et en fait, dedans, il y a tous les coûts du départ, les coûts économiques. Donc, on est quand même sur des jeunes femmes qui sont issues de classe moyenne ou de la petite classe moyenne ou de classe populaire. Donc, c'est vraiment un coût économique de pouvoir faire partir son enfant. Il faut pouvoir le loger, il faut pouvoir aussi payer les transports, payer l'école éventuellement et tout ça. Mais donc, c'est plus facile quand on a déjà un grand-parent ou une tante, un oncle qui peut héberger. C'est pas le cas de beaucoup de filles qu'on a rencontrées. Le coût aussi du soutien familial. Est-ce qu'elles sont accompagnées par leur famille pour aller plus loin ou au contraire freiner ? Et c'est là où on va retrouver notamment des parcours de jeunes femmes qui sont des soutiens familiaux à leur mère, notamment, pour venir en aide pour s'occuper des petits, pour venir en aide pour s'occuper des grands-parents, et ainsi de suite. Et donc, si elles partent, c'est un soutien familial qui va manquer dans l'organisation collective. Et donc, ils vont constituer aussi des freins au départ. Il n'y a pas que la mobilité, on va dire transport, qui va être un frein au départ. Et c'est bien toute cette enquête qui va montrer tous les petits freins qui vont s'accumuler. Il va y avoir aussi le tissu amical. Est-ce que les potes partent ou pas ? Si aucun des potes part, c'est compliqué de partir tout seul. Si on est un petit groupe de deux ou trois, c'est déjà plus facile de se motiver à se dire on va faire telle option pour rester ensemble. Il va y avoir les freins amoureux aussi. Si on est très investi dans une relation de couple, ça sera plus compliqué de partir et de risquer de mettre en péril son couple, qui est pourtant si important à ce moment-là de sa vie, qui vont être liés aussi au type de réseau et d'interconnaissance, et donc à la notoriété des familles et à la notabilité des familles. Donc voilà. Après, du côté de l'emploi et de la formation, ce qu'on voit, c'est que du côté des premiers emplois, quand elles sont en emploi, donc pour les plus âgées de celles qu'on va rencontrer et ou celles qui sont sorties du système scolaire...
Ouais, parce que c'était la tranche d'âge, c'était...
On a interrogé essentiellement des jeunes femmes de 15 à 25 ans, avec quelques-unes qui sont un peu plus jeunes et un peu plus qui sont 25-29 ans. Mais on a une grosse fenêtre de tir entre 15 et 25 ans, c'est-à-dire au cours des années, on va dire, lycée, même pour celles qui ne sont pas au lycée, c'est comme ça qu'elle les catégorise, et puis l'entrée dans l'emploi, l'entrée dans l'âge adulte. Et ce qu'on voit sur les emplois, c'est qu'elles occupent des emplois à CDD, en temps partiel subi, en temps fractionné. Et en fait, surtout, elles sont dans des emplois sous-qualifiés au regard de leur formation et au regard de leurs aspirations. Et c'est là aussi où elles font avec. Et elles ont déjà de la chance, elles sont embauchées dans telle ou telle structure. Et donc, si on a de la chance d'être embauché localement, ben on ne peut pas faire la fine bouche sur les horaires. Donc quand on fait 5h du matin, 9h du matin, puis après on réembauche à 11h et on désembauche à 14h, puis on réembauche à 18h, ben on ne peut pas avoir un deuxième emploi, mais on ne peut pas non plus avoir des loisirs, mais on ne peut pas non plus avoir une vie amicale intense. Et en même temps, il faut trouver quelqu'un quand on a un enfant qui va s'occuper des enfants, parce que c'est aux horaires des repas, aux horaires de l'entrée et de la sortie d'école. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'elles sont essentiellement dans des secteurs liés à l'aide à la personne. Donc, ça peut être petite enfance, enfance. Elles sont dans les EHPAD. Elles font les ménages. Elles sont dans la grande distribution. Et elles sont, sinon, ouvrières à l'usine. Et ce qu'on voit également, qui est particulièrement présent ici ou en Chartreuse, c'est l'effet du tourisme sur l'emploi. Et quand on a interrogé les jeunes femmes, ce qu'on voit, c'est que il y a tout un enjeu sur l'emploi saisonnier. Où effectivement, de l'extérieur, on se dit ah bah du coup sur ce territoire-là, ça va se dégager en fait l'attractivité et ce que ça permet l'été ici, par exemple, sur la pointe du Finistère, le tourisme. Et en fait, les filles du coin, les filles qui restent ici, qui ne sont pas parties faire leurs études ailleurs ou qui ne sont pas en cours d'études ou en cours d'emploi ailleurs, c'est elles qui vont avoir les emplois les moins qualifiés au moment de la saison. Parce qu'en fait, elles arrivent en concurrence avec donc les filles qui sont parties faire des études à l'extérieur et qui reviennent un peu passer du bon temps dans leur famille pendant l'été, avec les filles qui sont en emploi à l'extérieur mais qui vont, on va dire, chasser l'emploi aussi localement. Et puis les Parisiennes, alors oui, les Parisiennes ou celles des grandes villes, de Rennes, de Nantes et tout ça, qui vont faire un job saisonnier dans un endroit où c'est beau. Et donc, elles vont arriver en concurrence en termes de CV, mais aussi en termes de présentation, parce que bah, ça fait classe d'embaucher une Parisienne, ça fait classe d'embaucher une Rennaise ou une Nantaise.
C'est ressenti comme ça ?
C'est comme ça, ouais. Et du coup, elles, en fait, par exemple, sur... je prends l'exemple d'un camping, parce que c'est des exemples qu'on a eu pas mal, et en Chartreuse pour l'été, parce qu'il n'y a pas de camping à ski. Mais, et ici, sinon, où les filles du coin, en fait, sur les campings, elles vont embaucher sur les ménages, sur le travail qui ne se voit pas. Tandis que celles qui arrivent dans des grandes villes, elles vont être sur l'accueil et sur être hôtesse ou organisatrice ou animatrice. Voilà. Mais elles ne vont pas occuper les mêmes emplois. C'est-à-dire que celles qui sont ici seront toujours les moins visibles par effet de concurrence entre les jeunes femmes qui vont chasser les mêmes postes, en fait.
Alors, vous avez parlé, dans l'étude, l'appartenance, enfin l'attachement au territoire est aussi étudié. Qu'est-ce qui construit cet attachement au territoire ? Moi, ça m'intéresserait beaucoup de savoir un petit peu comment il a été déterminé, cet attachement. Ben, comment on peut le qualifier ?
L'attachement au territoire, il y a déjà un attachement, en fait, plus généralement aussi au cadre de vie, en fait, de la campagne.
D'accord. Ouais.
Avec, alors qu'il y a des fois l'image des femmes qui voudraient forcément partir à la ville. Dans les entretiens, on a beaucoup d'attachement au cadre de vie de la campagne, et c'est un attachement qui se construit aussi en opposition à la ville. C'est-à-dire que d'un côté, la ville est vue comme un lieu d'expérimentation qui peut être attirant pour expérimenter, connaître des nouvelles choses, rencontrer d'autres milieux, tout ça. Mais c'est plutôt une expérience à vivre, mais c'est pas forcément un cadre de vie pour vivre toute la vie. Et au contraire, on a dans les entretiens des représentations de la ville plutôt comme un risque, en fait. Un risque parce que il y a des figures urbaines qui sont des repoussoirs, en fait. Les jeunes femmes rencontrées en ville sont décrites soit comme des bourgeoises d'un côté, soit comme des racailles de l'autre.
Les deux extrêmes.
C'est un peu les deux extrêmes. En même temps, la ville, c'est aussi le lieu du harcèlement sexuel pour les jeunes femmes qu'on a rencontrées. C'est aussi le lieu du terrorisme. Comme on dit, non, mais nous, on est tranquille ici, mais en ville, il y a les terroristes. Et puis, c'est aussi les lieux de solitude, en fait. On a des jeunes femmes qui ont aussi des expériences de forte solitude quand elles se retrouvaient, par exemple, pour faire des études en ville. Du coup, ça se traduit par le fait que les femmes qu'on a rencontrées cherchent plutôt, en fait, un entre-deux, de là où elles se projetteraient. Un entre-deux entre ville et campagne. C'est-à-dire aller soit dans une ville, mais alors une petite ville, soit dans une campagne, mais plus proche d'une ville quand même, où il y aurait plus de transports, plus de commerce, plus de services de l'État à proximité. Oui, et parce que du coup, la question en fait de l'attachement au territoire n'est pas la même chose que se dire attaché à son territoire et forcément y rester. Et plus largement, en fait, on s'aperçoit qu'on oppose souvent partir et rester, mais c'est pas tellement cette opposition qui est importante dans les discours, parce que les jeunes femmes peuvent passer de l'un à l'autre, que la question de pouvoir ou d'être contraint à partir ou à rester. Et au final, en fait, si on est bien sur son territoire, c'est aussi parce qu'on peut en partir, en fait. Et donc, des jeunes femmes nous parlent le plus fortement de leur attachement au territoire, aussi des jeunes femmes qui vont en partir. Et inversement, des jeunes femmes qui s'y sentent piégées, qui n'ont pas les moyens d'en partir, ben, elles vont être très négatives sur leur territoire.
Ça, c'est la conclusion de l'étude. C'est, la question n'est pas tant de vouloir partir, rester, revenir, c'est d'en avoir la possibilité, quoi. Vous pouvez l'expliquer un petit peu, cette phrase-là ? Moi, je l'ai trouvée super intéressante.
Bah, c'est l'ouverture au monde des possibles qui fait qu'on peut se projeter ou pas, et on choisit. Enfin, c'est le fait de pouvoir choisir sa trajectoire ou de la subir, en fait. Si tu te sens piégé sur ton territoire, effectivement, tu ne choisis pas ta trajectoire, tu ne choisis pas de rester sur ton territoire. Et en fait, ce qu'on voit, c'est notamment l'expérience du départ, toute expérience du départ, qui va marquer en fait cette possibilité d'aller plus loin. Alors l'expérience du départ, c'est pas non plus partir à New York ou partir à Mexico. Ça peut être partir à 10 km de chez soi, partir à 20 km de chez soi. Et cette enquête, elle montre bien d'ailleurs un peu l'opposition entre la construction du départ et du loin des adultes et la construction du départ et du loin des jeunes. C'est-à-dire que pour les jeunes, le loin n'a pas la même définition que pour les adultes, notamment la distance, les effets de distance. Les jeunes, ils parlent pas en kilomètres, ils parlent en durée. Et ça, c'est hyper intéressant quand on leur dit « mais en fait, t'habites loin au pas de ton bahut ?» Ils nous répondent « bah moi, je mets 1h30 pour y aller ». Voilà. Et en fait, le 1h30, quand on calcule après, quand on demande où c'est et qu'on essaye de voir, bah 1h30, ça peut être 15 kilomètres, mais il suffit d'être au début de la boucle du quart scolaire. Bah ouais, on met 1h30. Par contre, la même jeune femme qui va vivre à 5 km ou à 10 km aussi, mais qui est à la fin de la boucle du quart scolaire, elle va dire « Non, moi, j'habite pas loin du bahut, j'habite à 15 minutes. » Mais pourtant, elles habitent à la même distance. Mais mettre 1h30 pour faire sa distance, bah, ça n'a pas les mêmes effets. Et donc, toute cette construction du loin et du proche, bah, c'est aussi des coûts qui vont être pensés sur la possibilité de partir ou pas. Avoir des ressources familiales, des gens dans la famille qui sont déjà partis, ça fait qu'on peut se projeter aussi dans le départ. S'il n'y a personne qui est jamais parti en voyage, parti travailler, parti découvrir quelque chose, ben on s'y projette moins, et moins on s'en projette, et plus on se retrouve coincé, moins on a de disposition, moins on peut faire fonctionner les choses, moins on a de capitaux mobilisables pour aussi se sentir légitime, se sentir capable de penser et s'ouvrir. Et c'est ça la tension qu'il va y avoir, quoi.
Offrir des possibles, tout simplement. Alors, vous concluez sur quelque chose de super chouette aussi, sur les premiers résultats de l'étude. C'est le fait que toutes ces filles, là, de milieu rural, elles partent à un moment donné vers l'âge de 14-15 ans. Elles sont super, super autonomes très tôt, quoi.
C'est-à-dire qu'on observe que malgré que le fait que les... C'est quelque chose qu'on dit souvent aux jeunes femmes de milieu rural, mais vous partez pas, vous bougez pas. Elles-mêmes disent, elles bougent pas, elles partent pas. Mais en fait, on voit que malgré le manque de transports locaux sur les quatre territoires, bah, les filles, en fait, elles sont plus mobiles qu'elles le disent, parce que elles se retrouvent justement dès 14-15 ans et parfois avant. Il y en a qui partent aussi dès le collège, elles partent à l'internat. On voit aussi qu'elles vont partir aussi pour des formations, pour du travail, qu'elles n'hésitent pas aussi à rejoindre leur petite amie dans un autre territoire, en fait, à quitter leur campagne pour aller des fois dans une autre campagne très éloignée pour rejoindre leur petite amie et s'insérer dans la vie locale, dans la vie familiale. Donc, elles partent facilement très loin.
On évoquait aussi, alors je suis obligé d'en parler, on parle d'une étude sur un territoire, d'une étude sur l'échelle de territoires ruraux, de plusieurs territoires ruraux. Mais je suis obligé de vous poser la question. C'est quoi ici les particularismes de la presqu'île de Crozon
et de l'Aulne-Maritime?
Oui.
Sur les spécificités, ce qu'on voit, c'est qu'il y a peu de spécificités. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a commencé par dire dans toutes les présentations qu'on a faites, c'est autant chacun a un parcours différent, autant il y a beaucoup de points communs quand on regarde la somme des parcours qu'on a pu rencontrer. Nous, on a enquêté auprès de 173 jeunes femmes, ce qui est pas mal. On a fait 60 entretiens individuels qui ont duré entre 1h30 et 3h pendant un an, et on s'est baladé, on a été assisté aux fêtes de village, on a été assisté aussi au foyer des jeunes, au regroupement et tout ça. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, dans ces quatre territoires, il y a des effets qui sont d'abord liés aux milieux sociaux, avant tout et avant liés au territoire. Et la presqu'île de Crozon et l'Aulne-Maritime, en fait, se situent de manière un peu intermédiaire socialement par rapport aux jeunes femmes qui sont des Deux-Sèvres et des Ardennes, qui sont des milieux les plus précaires, et par rapport à la Chartreuse, où on a retrouvé des jeunes femmes venant de la petite classe moyenne. Plus souvent et du haut des classes populaires. Et du coup, c'est là-dessus aussi où on va voir qu'il y a des enjeux. Sur les quatre territoires, le poids de l'interconnaissance est extrêmement fort. C'est pas du tout lié à ici. Contrairement à ce qu'on a entendu ici, ça serait spécifique et tout ça, en pointe de Finistère. Non, il n'y a pas de spécificité à ce niveau-là. Après, ce qu'on voit dans l'ensemble des territoires, c'est des tensions avec les principales villes. Ici, la tension, elle va être entre Brest et Quimper. Il va falloir choisir son camp. Il va falloir choisir ses fréquentations. Les filles qui vont à Brest, elles vont pas forcément à Quimper. Et donc, il va y avoir tout le maillage qui va se voir. Voilà. Ce qu'on voit ici, mais qu'on voit également dans les autres territoires, c'est par exemple, il n'y a plus de boîte de nuit. Voilà. Toutes les filles le disent par rapport à leur mère, ou à leurs parents, ou à leurs grands-cousins, et tout ça, dont elles ont pu entendre parler. Il n'y a plus de lieu de sortie pour les jeunes. Il reste une boîte de nuit à Crozon, Morgat, et sinon, il n'y a plus de lieu de sortie, vraiment. Et ça, c'est plein d'espaces et de tensions qu'il peut y avoir, mais qui ne sont pas si spécifiques à la presqu'île Aulne-Maritime, par exemple. On ne peut pas, avec cette enquête, dire qu'il y aurait une spécificité territoriale vraiment franche et forte sur ici, par exemple.
Et comme il nous reste que quelques instants, je réinsiste là-dessus, il y a théâtre ce soir au Rex à Crozon à 18h30. Vous retrouverez des jeunes filles qui ont participé à l'enquête.
Oui, et pas seulement, mais on ne dira pas qui. Non. Donc il y en aura dans la salle, il n'y en aura pas dans la salle.
Et on vous retrouvera aussi, vous présenterez aussi cette étude.
Alors on présentera l'étude et l'idée justement c'est que nous on ne citera pas les entretiens qui seront incarnés en expression scénique par l'ensemble des jeunes qui ont participé au projet théâtre avec Chahinez et Malik, que ce soit ce soir à Crozon ou demain à Pont-de-Vie.
Oui, j'allais le dire parce que je ne voulais pas me faire engueuler à la fin de l'interview. Mais oui, demain à 14h30.
À la médiathèque de
Pont-de-Vie. Ouais. Voilà. Et ce soir au Rex à Crozon à 18h30.
Voilà, exactement.
Merci à vous.
Merci.